Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La France et l'Allemagne vont-elles profiter de la montée des populistes en Italie pour se rapprocher? En tout cas, Angela Merkel répond enfin à Emmanuel Macron sur l'idée d'une zone euro plus forte. Elle acquiesce, vous l'entendrez. L'extrême droite et les populistes en Italie donc, les nationalistes peut-être bientôt en Slovénie. Ils viennent en tout cas de remporter les législatives grâce à une campagne anti-immigration. Quand ce week-end au moins 48 migrants sont morts en Méditerranée, 80 sont encore portés disparus. Et puis dans cette édition, nous ferons le point sur la réforme de l'audiovisuel public, chantier du gouvernement qui a pris du retard et qui pourrait être moins important que prévu. Après des mois d'atermoiements, Angela Merkel entrouvre donc enfin la porte à une réforme de la zone euro. Dans un entretien au journal allemand Frankfurter Allgemeine, la chancelière a détaillé hier et pour la première fois sa réponse au projet de réforme d'Emmanuel Macron. Et l'actualité de ces dernières semaines n'y est pas pour rien, Cyril Sauvageau.
C'est sans doute l'urgence du moment qui a fait sortir Angela Merkel de son silence. L'Allemagne ne pouvait pas rester immobile plus longtemps, alors que l'Italie fait planer la menace d'une nouvelle crise européenne. Réformer la zone euro, oui, répond la chancelière, qui s'empresse toutefois de fixer ses lignes rouges. La solidarité ne doit pas conduire à une union de l'endettement. Message envoyé au nouveau gouvernement italien qui entend réclamer à la BCE un effacement massif de sa dette. Pour consolider la zone euro telle que le propose Emmanuel Macron, les Allemands semblent prêts à faire un pas et accepter deux nouveaux mécanismes d'entraide, un budget d'investissement et un système de prêts à court terme pour les pays en difficulté via le futur Fonds monétaire européen. Mais Berlin veut des garde-fous, le FME devra exercer une étroite surveillance sur les États bénéficiaires. Quant au budget de la zone euro, il pourrait se limiter à quelques dizaines de milliards d'euros, bien loin des ambitions de l'Élysée. Une réponse modeste et prudente donc, mais qui doit permettre au couple franco-allemand de présenter une feuille de route commune fin juin au prochain sommet européen.
Et l'Élysée a d'ailleurs réagi hier soir, y voyant un mouvement positif qui témoigne de l'engagement européen d'Angela Merkel et de son gouvernement. Les recherches vont reprendre ce matin au large de la Tunisie. Au moins 48 migrants sont morts en Méditerranée samedi soir. Ils avaient quitté la Tunisie dans l'espoir de rejoindre l'île italienne de Lampedusa. Mais le chalutier sur lequel ils s'entassaient a coulé. Au moins 80 personnes sont encore portées disparues. Et de l'autre côté de la Méditerranée, en Sicile pendant ce temps, le nouveau ministre de l'Intérieur italien martelait ce slogan « L'Italie ne peut pas être le camp de réfugiés de l'Europe ». Matteo Salvini, secrétaire de la Ligue d'extrême droite, donnait ainsi le ton de la politique migratoire de l'Alliance Ligue Mouvement 5 étoiles au pouvoir donc en Italie depuis une semaine. Un nationaliste en tête des législatives en Slovénie, l'ancien premier ministre conservateur Janez Janša, un proche du Hongrois Viktor Orban, est arrivé en tête. Il avait brandi le spectre d'une invasion migratoire lors de sa campagne. Il n'est toutefois pas assuré de rassembler une majorité en Slovénie. Les précisions de Jean-Arnaud Derrins.
C'est une Slovénie difficilement gouvernable qui ressort des élections de ce dimanche. Certes, Janez Janša, le candidat de la droite radicale, réussit son retour en arrivant largement en tête, mais avec seulement 25% des voix, il aura les plus grandes difficultés à former une majorité. L'ancien Premier ministre avait été lourdement condamné en 2014 pour une vilaine histoire de corruption et pour effectuer son retour, il avait choisi de se positionner à droite toute. Bénéficiant des largesses financières de son allié européen Viktor Orban, il avait axé sa campagne sur la menace d'une subversion migratoire. La Slovénie, petit pays de 2 millions d'habitants, coincé entre l'Autriche et l'Italie, est en effet le débouché de la route des Balkans que plus d'un million de réfugiés ont emprunté en 2015. Janez Janša se proposait donc de défendre la Slovénie et son identité, menacé selon lui, non seulement par les réfugiés, mais aussi par le philanthrope George Soros ou bien les lobbies homosexuels. Ce type d'argument n'a pas convaincu au-delà de la base radicalisée des partisans de Janša, qui aura donc bien du mal à trouver d'éventuels partenaires de coalition. En réalité, c'est une scène politique totalement éclatée qui ressort des élections de ce dimanche. Pas moins de 9 formations seront représentées au Parlement, dont la gauche anticapitaliste qui effectue une véritable percée. Les différents partis qui soutenaient le gouvernement sortant du centriste Miro Cerar obtiennent à peu près le même nombre de sièges que la droite. Il reste donc à voir s'ils parviendront à élargir leur base pour former une nouvelle coalition.
L'État français pourrait bientôt lâcher Air France. D'après le journal Les Échos ce matin, le groupe hôtelier Accor aurait proposé à l'État de lui racheter les 14% d'Air France KLM qu'il possède. Pas de confirmation à Bercy, mais Accor Hôtel lui reconnaît que des discussions sont bien en cours en ce moment. Un jour d'enterrement pour la CGT qui appelle ce lundi les employés du groupe Carrefour à la grève. 249 petits magasins de la marque vont fermer cet été. Il ne s'agit pas d'hypermarchés, mais de supérettes de quartier. 249 donc sur les 273 dont le groupe veut se séparer. Il y a très peu d'offres de reprise. La liste détaillée sera dévoilée aujourd'hui lors d'un comité central d'entreprise. Qui pour diriger le premier syndicat de France dans le secteur privé? Laurent Berger veut rempiler pour 4 ans à la tête de la CFDT. Il est le seul candidat. Et un défi se pose à lui, Emmanuel Macron. C'est ce qu'estime en tout cas Gérard Adam, professeur émérite, spécialiste des questions de relations, des relations professionnelles.
La CFDT, qui avait plutôt soutenu Macron, se trouve maintenant en porte-à-faux compte tenu des positions du président de la République, très hostile finalement à l'initiative des organisations syndicales. La CFDT essaie malgré tout de peser dans les discussions en faisant des propositions qu'elle estime raisonnables et de caractère réformiste. Et paradoxalement, elle a un peu l'avantage d'avoir en face d'elle la CGT et FO qui sont dans une position de contestation systématique qui n'est guère crédible dans l'opinion et qui est vouée à l'échec. L'enjeu majeur est presque extérieur à la CFDT. C'est toute la place du syndicalisme réformiste qui est en jeu.
Gérard Adam avec Charlotte Baris. Pas de syndicat autour de la table de la ministre de la Culture ce matin, mais tous les dirigeants de l'audiovisuel public. Françoise Nyssen présente sa réforme avec 2 mois de retard. Le dossier s'est manifestement révélé plus compliqué que prévu. Et encore, on risque de ne pas tout savoir, Alexandra Hakoun.
Aucun chiffre ne devrait être avancé, trop explosif avant certains observateurs. On parle d'une enveloppe qui pourrait atteindre 500 millions d'euros sur un budget global de 3,9 milliards. Françoise Nyssen devrait donc se limiter aux grandes orientations stratégiques, faire en sorte que France Télévisions rattrape son retard sur le numérique, aller capter les jeunes publics, développer l'offre de proximité, les réseaux France 3 et France Bleu pourraient être rapprochés, France 4 pourrait basculer sur le web, France O disparaître. La ministre de la Culture montra seul au créneau ce matin, entouré des présidents de l'audiovisuel public. En réalité, c'est bien Matignon qui a la main. Pour preuve, cette dernière réunion qui aura lieu quelques minutes avant les annonces, entre le Premier ministre, la ministre de la Culture et les députés de la majorité en charge du dossier. Hier soir, Édouard Philippe a également reçu la présidente de Radio France, Sybille Veil, et celle de France Télévisions, Delphine Ernotte, pour un dernier cadrage budgétaire. Rien de punitif, pas de logique de robot, mais des transformations pour plus d'efficacité dans les dépenses, assure-t-on du côté de Matignon. On attend de voir.
Zoom à présent sur un projet qui fait débat au sein même du gouvernement, la Montagne d'Or. Un projet de future mine d'or en Guyane, ce serait la plus grande en France. Le député européen Yannick Jadot doit y passer la semaine. Entre retombées économiques et prix environnemental, les détracteurs du projet sont nombreux, tout autant que les promoteurs. Et donc même au sommet de l'État, Evan Le Bastard.
Emmanuel Macron a toujours défendu le projet Montagne d'Or. Déjà en 2015, alors qu'il est ministre de l'économie en visite en Guyane, il encense le consortium russo-canadien derrière le projet. Il qualifie l'entreprise d'exemplaire à la fois sur le plan scientifique, environnemental et social. En octobre 2017, alors qu'il est cette fois président de la République, il le défend à nouveau, parlant d'un projet qui peut être bon pour la Guyane. Au gouvernement, son ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, est en désaccord avec lui. Sa Fondation pour l'environnement fait partie des opposants historiques au projet. Il n'hésite pas à contredire le président, parlant de lourds impacts environnementaux pour un bénéfice économique et un bénéfice d'emploi assez réduit, selon lui. Ce projet devrait créer 750 emplois directs, près de 3000 indirects, dans une région où près d'un jeune sur deux est au chômage. Nicolas Hulot et Emmanuel Macron sont tombés d'accord sur une chose, la nécessité d'un débat public. Il a été lancé le 3 avril et les conclusions doivent être rendues dans un mois, le 7 juillet. Le ministre doit décider s'il reste ou non au gouvernement quelques mois plus tard. Selon lui, il aura suffisamment d'éléments pour regarder s'il a participé à une transformation sociétale. La décision sur le projet Montagne d'Or fait certainement partie de ces éléments.
La relance minière en France, c'est un article que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr. Le temps sera à nouveau instable ce lundi avec des averses sur quasiment tout le pays ce matin et des orages dans l'après-midi de la Bretagne jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Des orages qui ont d'ailleurs inondé une partie du Finistère hier, mettant Morlaix sous les eaux. Les températures ce matin comptaient une minimale de 17 degrés à Brest, 19 à Bordeaux, 20 degrés à Lille et Besançon, 21 à Lyon, 22 sur l'Île-de-France et à Perpignan.